vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Mathieu lui dit, c'est faux. Le président demande. Le président demande, vous êtes fou sûr que c'est lui qui a donné cet ordre stupide? Bon, monsieur le président, il me l'a téléphoné. Mathieu lui dit, mais non, c'est complètement faux. Le président lui dit, vous saviez qu'elle était fragile et sensible à la lumière. Il lui dit, oui, je lui avais écrit. Président dit, et alors? Mathieu dit, j'ai jamais donné cet ordre. Président dit, irrité et très ennuyé. Bon. Arrêtons de nous disputer. Il faut prévenir le président du groupe. Cette affaire est très importante. Prend son téléphone. Fait un numéro. Allô? Je suis le président de l'entreprise de Versailles. J'aimerais un rendez-vous avec le président. Merci. Allô? Bien. Nous arrivons de suite. Le président veut bien nous recevoir. Tout de suite, nous y allons ensemble, ce sera mieux. Allons, venez. Ils sortent du bureau. Ils prennent la voiture du président pour aller au siège. Au siège, le président sonne à la porte du président. Les voyageurs s'allument. Ils sont entrés. Le président demande, que se passe-t-il? Le président lui dit, nous sommes venus si vous parlez d'une chose très grave. le président Grandjean lui dit « Approchez-vous, je vous écoute. » Il se s'approche. Le président lui raconte toute l'affaire. Grandjean furieux leur dit « Mais nous avons perdu des milliards à cause de vous. Qui est responsable ?» Le président lui dit « J'ai donné la plante à M. Prudent. » Il s'est dit « Et moi, à M. Sève, avec les indications. » Mathieu lui dit « Et moi, au chef de laboratoire. » Chef de laboratoire dit « Moi, j'ai reçu un appel téléphonique de M. Sève me disant de mettre ce rayon. Les plantes, c'est ce que j'ai fait. Je vous jure que j'ai fait ce que l'on m'a demandé. » Président Grandjean regarde Mathieu et lui dit « Vous savez que cette plante était sensible à la lumière et à la chaleur. Elle ne la supportait pas. » Et tu lui dis « Oui. » Et tu dis « Je lui avais marqué sur une feuille. » Quand j'en demande « Où est le papier ?» Mathieu le lui donne. Quand Jean le lit et dit « Ceci met hors de cause Monsieur Prudent. » Et Monsieur le Président, mais vous, Monsieur Sève, vous êtes responsable de ce qui s'est fait. Il lui dit, mais j'ai jamais donné l'ordre de le faire. Ce n'est pas ce que me dit le chef de laboratoire. Et si vous lui avez pas dit, qui lui aurait dit? Mathieu lui dit, je ne sais pas. J'ai toute confiance au chef de laboratoire. C'est un homme sérieux qui travaille chez nous depuis de nombreuses années. Alors, Mathieu lui dit, je ne sais pas. Vous avez agi. Involontairement, vous avez fait ça volontairement pour vous nuire. Mathieu se sent perdu. Il n'ose pas répondre. Et son ami aussi, il se dit que lui aussi doit être très en colère contre lui. Le président Grandjean dit, montrez-moi cette plante. On lui montre le reste de la plante, il dit, c'est une vraie catastrophe. Une plante unique au monde. Que faire? Il réfléchit et dit, la chose est grave. Il faut sévir. D'après moi, il n'y a qu'un coupable. Et le coupable, c'est Monsieur Sève. Mathieu est tout rouge. Grandjean continue et dit, je suis obligé d'être très sévère. Vu la grande faute. Monsieur Sève, vous ne faites désormais plus partie de notre groupe et vous ne pourrez plus être embauché dans aucun groupe de la filiale du groupe Franblanc. Mathieu lui dit, je vous jure, monsieur le président, que je suis innocent. Ce Grandjean lui dit, vous êtes coupable. Vous étiez responsable de cette plante. Cela suffit. Vous allez vous en aller. Mathieu est tout blanc. Il se sent une grande injustice. Il regarde son ami pour voir s'il ne veut pas faire quelque chose, dire quelque chose. Mais non, rien. Pas un geste. Pas un geste. Mathieu Penaud quitte le bureau. Le président dit, bon, vous aussi, vous pouvez vous en aller. Nous avons assez discuté là-dessus. Et Il se retire. Grandjean dit : Alexis, vous restez. Alexis reste dans le bureau, les autres sortent. Mathieu est près de la porte, il a les jambes qui tremblent. Il ne sait où aller, la tête vide. Les autres qui sortent du bureau le dépassent sans lui parler. Alors, près de la porte, vous y êtes enfin arrivé. C'est le président qui vient de dire ça. Et ça lui démontre qu'Alexis est avec lui. Mathieu comprend que c'était un coup monté et que son ami de toujours, celui qui lui a sauvé la vie, qui l'a aidé dans toutes les catastrophes, a fait ce stratagème pour le mettre à la porte. Ça lui fait mal, très mal, très très mal. Il se sauve en courant. Dehors, il n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Oui, chez lui. Il court, il court. Trahison, trahison. Sonne à la porte de l'appartement de sa mère. Sa mère lui ouvre. C'est toi ? Lui dit oui. Il entre. Ferme la porte. Il lui dit : Viens, il faut partir. Tout quitter. Partir loin. Tout oublier. Il faut tout oublier. Tout quitter. Il demande : Mais pourquoi ? Et ton travail ? Il lui dit, cité la tête en feu, tant pis. Il ouvre la porte et se sauve en courant. Sa mère lui crie du haut des escaliers, où vas-tu? Il ne répond pas. La porte de l'allée qui vient de claquer. Alexis sort du bureau de Grandjean. Il se sent mal à l'aise. Il se dit qu'il a fait une chose horrible, qu'il a trahi son ami. Il a honte de lui. Le président lui a dit que la plante n'était pas celle. Celle-là, qu'il a remplacée par une autre pour jouer le jeu. Alexis se sent mal. Il est sorti du siège, la tête en feu. Il s'est dit, je suis un salaud. Un salaud. Il se met à courir. Il se demande si son ami va vouloir lui parler. Il court dans les rues. Il pleure. Enfin, il arrive devant l'immeuble où habite la mère de Mathieu. Il se dit qu'il a dû rentrer chez lui. Il monte les escaliers 4 à 4. Il se dit que si Mathieu lui donne une correction, ça sera bien fait pour lui. Il a un salaud. La porte s'ouvre, c'est la mère de Mathieu, la mine défaite. Il demande, Mathieu est là? Elle lui dit, non, pourquoi? Mathieu est parti. Il entre. Elle ferme la porte. Il lui demande, parti comment? Elle lui dit, je ne sais pas, il est parti. Il est venu comme un fou. Il voulait que l'on quitte tout ça. Je lui ai dit que c'était impossible. Alors il est parti comme un fou. Je ne sais pas où. Et elle lui dit, c'est de ma faute. Elle lui demande, pourquoi? Il lui dit, je me suis comporté comme un salaud. Elle lui dit, en pleurant, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il lui dit, je lui ai fait mal, très mal. Je lui ai fait perdre son travail. Elle lui dit furieuse, je ne veux plus te revoir. Pourquoi as-tu fait ça pour mon fils? Dès maintenant, il est parti. Il m'a quitté. Il est sans travail. Va-t'en. Tu me fais du mal à Mathieu. Qui t'aimait? Je ne veux plus te voir, ni toi ni les tiens. Petit salaud. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Va-t'en. J'ai perdu mon fils à cause de toi. Elle ouvre la porte. Allez, fous-moi le camp. Il reste penaud et ferme la porte derrière lui. Une page de sa vie qui se ferme définitivement. Alexi, une fois dehors, est effondré. Son ami a disparu. Il se sent coupable, très coupable, et décide de le chercher. Il va dans les bars. Dans les gares, il ne le voit pas et commence à voir s'il a pris un train. Il va dans les rues. Dans les rues où il va d'habitude. Sur les quais. Fait les cafés, magasins, cherche pendant des heures, la tête en feu. Désespérément, il demande aux passants. Les passants le prennent pour un fou. Il va voir sur les ponts, rien. Demande aux clochards, rien. Épuisé, les larmes en aux yeux, la nuit. Il s'en retourne et se dit que peut-être qu'il a dû rentrer chez lui. Alors il décide d'aller voir. La porte s'ouvre. C'est la mère de Mathieu, les yeux rouges. Elle lui dit, je t'avais dit de ne plus revenir. Je suis venu, c'est pour savoir s'il était de retour. Elle lui dit, non, bien sûr que non. Elle ferme la porte. Il reste dans l'allée, tristement, et descend les escaliers. La mère de Mathieu est effondrée. Après une nuit blanche, elle décide d'aller au commissariat de son quartier. Il se trouve au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble vétuste. Elle y rentre, c'est sale, triste. Va à la banque où se trouve un policier en habit. Il est jeune, blond, dans les 22 ans. Il lui demande, « Vous désirez, madame ?» Elle lui dit, « C'est pour mon fils qui a disparu. Depuis quand ?» Elle lui dit, « Hier dans la matinée. » Elle lui dit, « C'est un peu tôt. Vous savez, les jeunes font souvent des fugues comme ça, mais c'est pas bien grave. » Elle lui dit, « Si c'est grave, il est parti désespéré. » Le policier prend un papier. Nom de votre enfant, Mathieu Servant. L'âge, elle lui dit, 23 ans. Il lui dit, il est major, votre fils. Il est sous tutelle? Non. Nous ne pouvons rien faire, malheureusement, madame. Votre fils peut vous quitter quand il le veut et comme il le veut. Il est libre de ses mouvements. Elle lui dit, mais... s'il lui est arrivé quelque chose, il lui dit, il y a les hôpitaux. Appelez, voilà madame, je ne peux rien pour vous. Elle quitte le commissariat. Alexis entre chez lui hier au soir. C'est sa mère qui lui a ouvert. Elle lui dit, tu rentres bien tard. Tu étais avec Mathieu? Et tu lui dis, non, j'étais seul. N'est-ce pas dire à sa famille ce qui s'est disputé avec Mathieu ou ce qui s'est passé. Il se sent coupable, très coupable. Il se dit, moi aussi je vais disparaître. Partir, partir, n'importe où. Elle lui demande, tu ne vas pas manger? Non, j'ai pas faim. Et va dans sa chambre. Il passe une nuit terrible. Il se dit que Mathieu, lui non plus, ne doit pas dormir. Il doit penser à ce que lui a fait Alexis. Et si dans son lit se dit, je suis coupable et je dois payer. Mais pourquoi je fais ça? C'est la chose la plus ignoble que l'on puisse faire. Trahir son ami. De le mettre dans un guet-apens. Je vais disparaître. Je paierai moi aussi. Le lendemain matin, il est décidé de disparaître, de tout quitter, de partir comme ça, de ne plus jamais revenir. Tant pis pour ses parents. sort de sa chambre pour aller à la cuisine, prendre son petit déjeuner avec sa famille, le dernier. Dans la cuisine, son père lui dit, tu te lèves bien tard. Et il lui dit, ça n'a pas d'importance. Il s'assoit. Tout d'un coup, il se dit, c'est idiot de prendre son petit déjeuner comme ça. Il devrait partir. Il se sent calme, libre, même. Peut-être qu'il va retrouver son ami. Et pourquoi pas la vie n'a plus d'importance pour lui. Il peut faire ce qu'il veut. Il se sent libre. Son père lui demande, tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Non, je n'ai pas faim. Absolument pas faim. Pas faim du tout. Téléphone sonne. Il dit, au revoir père. Et il sort de la cuisine. Sa mère apparaît dans le couloir. Elle lui dit, Florence veut te parler. Il lui dit, dis-lui que je suis parti. Il demande, pourquoi tu veux pas lui parler? Il lui dit, il est trop tard. Au revoir maman. Et il ouvre la porte et s'en va. Il ne sait pas pourquoi, mais se sent pas coupable vis-à-vis de sa famille. Il est déjà ailleurs, dans un monde de rue, dans un monde où il n'y a rien, un grand vide, juste avant le grand saut, un monde entre la vie et la mort, un monde neutre, comme ces lieux qui sont entre deux frontières, qui n'appartiennent à personne. Il est en entr'acte avant d'aller de l'autre côté. Il a quitté l'appartement soulagé. C'était un lieu d'avant. Il sort de l'immeuble. Cette rue, ce quartier, ce n'est plus sa rue, son quartier. Il n'est plus Alexis. Ce qu'il a fait, l'a transformé à jamais. Pourquoi a-t-il fait ce geste irrésistible, irréversible? Est-ce que son bonheur est plus important que les valeurs de ses sentiments, que ses amis? Est-ce que son bonheur est plus important que son honneur? Il marche dans les rues. Il marche comme ça, dans les rues. Il ne sait pas vraiment où il va. Peut-être qui va prendre un train, n'importe lequel, et partir comme ça, ou marcher sur les routes. Il ira jusqu'au bout de ses forces, après se laissera mourir. Il faut bien qu'il souffre lui aussi. Mathieu doit souffrir, et peut-être plus que lui. Peut-être s'est-il donné la mort. Il va encore une fois dans la rue où habite son ami. N'ose pas aller sonner à l'appartement. Il attend devant l'immeuble. On ne sait jamais. Les passants le croisent, le cognent, se retournent. Il se demande ce que veut ce jeune homme. Il attend là. Des fois, il va sur le trottoir d'en face pour voir s'il ne le voit pas de sa fenêtre. Mais non, les rideaux sont bien tirés. Le temps passe. N'ose pas s'en aller. Il se dit qu'il va peut-être apparaître. Ses pensées vagabondes. Il se voit avec son ami, enfant, courant dans les rues, heureux, ensemble. Il revoit l'incendie. Il revoit sa mère arrêtée. Il revoit toujours son ami près de lui, qui l'aide, le soutient, moralement aussi. Il revoit son beau visage. Les passants le croisent et lui ne les voit pas. Il est tellement dans ses passés qu'il ne sait plus où il est et ce qu'il a fait et pourquoi il est là. Les images lui reviennent. Lui voit comme ça. Il se voit. Il voit avec son ami, toujours ensemble. Et malgré lui, au fur et à mesure que ses souvenirs grandissent, prennent de l'importance, il les vit tellement fortement qu'il en est heureux. Il est heureux comme il ne l'a jamais été. Il ne voit pas, il n'entend pas, ou ce qu'il entend est dans ses souvenirs. C'est devenu des choses présentes, plus fortes que les choses présentes. Les gens qui le croisent voient un jeune homme qui les regarde, qui regarde, qui ne regarde pas et qui sourit. Il semble sourire aux anges. Il pense que c'est peut-être un simple d'esprit. Alexis. Alexis Surtoute. On vient de l'appeler. Alexis. Ses images s'estompent et voit en face de lui Florence. Ne réagit pas, ne sent pas. Il est entre le rêve et la veille. Il la voit sans la voir. Ne réagit pas. Elle lui dit : qu'est-ce que tu as ? Il ne dit rien. Tu es malade ? Elle lui touche le bras. Le secoue. Il revient à la réalité. La fatigue l'a forcé à revenir à la réalité. Il lui donne mal à la tête. Met ses mains sur son front. Elle lui demande : ça ne va pas ? Il lui dit : j'ai mal à la tête. Elle voit qu'il n'est pas bien du tout. Elle lui dit : viens, nous allons dans ce café, prendre un petit quelque chose. Elle le prend par le bras, il se laisse guider. Elle l'a fait entrer dans un petit bistrot, tout petit, sale, gris, meublé comme en 1950. Ça sent le vin, il y a quelques vieux qui jouent aux cartes et une vieille poissarde. Elle le fait asseoir à une table et s'assoit en face de lui. Le biscoquet, un gros, à cheveux gris et tablier bleu, cigarette à l'oreille, vient à eux.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Florence demande à Letty, qu'est-ce que tu veux ? Il ne répond pas. Elle lui dit, deux cafés bien forts et des croissants s'il vous plaît. Merci. Le biscoquet s'éloigne. Elle lui dit, est-ce que ta mère m'a dit que tu étais parti ? Je suis allé chez tes parents. Ils m'ont dit que tu étais parti bizarre et sans manger. Ils ne savaient pas ce que tu avais. Je suis allé à l'entreprise et personne ne t'a vu. On m'a dit qu'il y avait eu un ennui hier et que ça t'avait retourné. Tu avais été choqué. Elle lui dit, si c'est pour ça, te fais pas de soucis. Il ne lui répond pas, puisque qu'elle leur apporte leur commande et s'en retourne. Elle lui dit, bois, il boit. Ça le chauffe et lui fait du bien. Mais il est encore tout étourdi. Elle lui dit, mange un croissant, ils sont très bons. Il en croque un. Il a toujours la tête vide. Elle lui demande, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des ennuis ? Tu peux tout dire, tu sais ? Tu es malade ? Ne dis rien. Elle lui dit, si tu es fatigué, tu peux te reposer. Mon père m'a parlé. Il est très heureux pour nous. Il dit que tu es un type très très bien. Il va te donner une augmentation et un bon poste de responsabilité. Il t'invite ce soir à dîner. Est-ce que tu iras ? Tu dois être heureux. Il lui dit énervé, je ne sais pas. Elle lui fait, qu'est-ce que tu as ? Je t'apporte une bonne nouvelle et tu me... Pourquoi ? Il lui dit rien. Elle est triste. Elle lui dit, nous avons tout pour être heureux. Et toi, tu ne dis rien. Ton père, mon père fait tout pour nous. Alors, tu ne m'aimes plus ? Si c'est à cause de cette histoire idiote, le renvoi de ton ami, n'y pense plus, il n'y a rien. Il se dit, elle me le paiera. Je dois aller jusqu'au bout, faire le père. Et après, elle lui dit, alors ? Il dit, rien, un peu de fatigue. Et il dit, repose-toi cet après-midi. Et ensuite, tu viendras chez mes parents. Tu m'aimes toujours ? Il dit, oui. Elle est heureuse. Après avoir pris leur petit déjeuner, ils sortent du café. C'est elle qui a payé. Elle lui dit, je raccompagne jusqu'à chez toi. Et ensuite, tu te couches. Et se mettent à marcher. Il se dit qu'il faut suivre son destin pour arriver à ses fins. Arrivé devant son allée, elle l'embrasse sur la joue et lui dit, je te laisse, j'ai affaire, je t'aime. Et elle le quitte. Lui entre dans son allée. Sa mère lui ouvre, il entre. Elle lui demande, qu'est-ce que tu as? Il dit, un peu de fatigue, je vais me coucher. Et il va à sa chambre. Se déshabille. Et se couche. Il veut dormir, oublier, ou plutôt laisser en veilleuse ce qu'il doit faire. Se laisser guider par les autres pour qu'il croit qu'il est alors leur chose. Mais en réalité, c'est lui, le pantin, qui va mener la danse. Il se dit, je dois rien laisser paraître. Il passe la journée chez ses parents. Sa mère lui dit, tu ne travailles pas? Il lui dit, non. Il lui demande, ça ne gêne pas que tu n'y vas pas? Il lui dit, non, je suis le futur gendre du PDG, je fais ce que je veux. Il se dit, je dois être comme eux. Il dit à sa mère, j'ai rendez-vous chez Grand Jean. Il m'invite pour la soirée. Ils vont me féliciter et me donner une promotion. Sa mère est heureuse. Lui se trouve cynique. Et le soir, il sort chez ses parents pour aller chez sa future, chez ses futurs beaux-parents. Il y va en taxi. Il se dit que bientôt, il aura une voiture de fonction. Avant de sonner chez les grands gens, il entend du bruit, du monde. Il sonne. La porte s'ouvre, c'est le domestique. Je suis monsieur Alexis Prudent. Le domestique lui dit, je sais monsieur, entrez, on vous attend. Il entre. Le domestique ferme la porte et lui dit, veuillez me suivre, monsieur. Et il le mène au salon. Il ouvre la porte. Entrez, monsieur. Et le fait entrer. La pièce est toute illuminée. Il y a du monde. Alexis est surpris et ennuyé. Florence va à lui et lui dit, viens, viens voir mon père. Il lui dit, je ne savais pas qu'il y avait autant de monde. Il lui dit, c'est pour toi. Il est malgré lui gêné. Père de Florence lui dit, oh, le voilà, voilà notre héros. Tout le monde accourt à lui et lui sourit. Albert dit, je suis fier de lui. Il fait partie de notre groupe. Il a prouvé qu'il était des nôtres. Il était de notre côté. Et ici, voit qu'il y a Judith, Harold, des gens qu'il ne connaît pas. Albert lui dit, venez, je vais vous présenter. Il leur présente le président de la clinique Riquin-Genetoux, le président du groupe Genetoux, celui du groupe Pontois. Le groupe Franc-Blanc est représenté par Harold et Judith. Le président ne vient jamais pour ce genre de choses. On lui présente aussi des gens d'autres filiales, etc. Et Harold dit, ce jeune homme qui est des nôtres, car il l'a prouvé, deviendra mon gendre et un jour me remplacera. Mais en attendant, je le nomme pour commencer directeur responsable des recherches biotechniques agricoles du groupe. Tout le monde applaudit. Alexis se sent mal et se dit qu'il vient de faire un acte ignoble. Et on le félicite pour ça. On le récompense. Puis se dit que s'il a fait cette chose, c'est à cause d'eux. Oui, il aurait dû dire non. Florence le voit triste et lui demande « Qu'as-tu ?» et lui dit « J'ai fait une mauvaise action. » Elle lui dit « Toi, tu exagères. Toi, mauvaise action. Tu es bien toi, gentil. Tu en es incapable. » Elle lui dit « Malheureusement, c'est la vérité. Et c'est à cause de ça que l'on me récompense et félicite. » Elle lui dit « C'est impossible. » Que ce soit l'entreprise qui t'est forcée à faire une mauvaise action. Ne réponds pas et lui dit « Tu dois oublier tout ça, ne penser qu'à ton avenir. » Il ne pense alors qu'à ça. Il se dit que même avec elle, il sera obligé de cacher, de le cacher. Après la soirée, le mari et la femme sont seuls dans le petit salon. Ils sont partis à 3h du matin. Florence est couchée. Albert dit à sa femme, il fera un très bon gendre, et peut-être mieux qu'une personne de notre milieu, comme le nôtre. Elle lui demande, pourquoi ? Il lui répond, parce que lui, il doit tout à sa belle famille et sera au service de sa belle famille. Il ne pourra la trahir. Il a déjà pris du galon. Il va en prendre encore. C'est un garçon intelligent et qu'il apprend vite. Il comprend où est ses intérêts. Et lui demande dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. La
du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.